carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Carrefour des Arts vous emmène au Musée d'Appert à Paris pour une exposition consacrée aux femmes dans les arts d'Afrique. Épouses, mères, reines, les femmes sont fortement valorisées dans les arts africains. De la naissance au plus grand âge, en passant par les étapes obligées du mariage et de la mise au monde d'enfants, les femmes occupaient une place très particulière. Celle-ci reflète souvent une ambivalence marquée par une présence affirmée au sein de l'espace privé, celui de la famille, ou un effacement dans la sphère communautaire qui réunit les membres du clan. Retrouvons sans plus tarder Gabin Bonny, attaché culturel au musée d'Appert. Il nous livre une partie des secrets des statuettes présentées dans l'exposition « Femmes dans les arts d'Afrique » qui se déroule du 28 octobre 2008 au 12 juillet 2009. La gémilité chez les Dogons et les Bambara, peuple du Mali.
Alors, la notion de couple aussi, elle n'est pas du tout forcément vue comme le conjoint, tout ça. Ça peut tout simplement, comme chez les Dogons, le couple primordial, le premier couple. Le premier couple, en fait, c'est à un. C'est un qui est composé de deux. Hein, donc, quand le couple Dogon, vous avez deux personnages assis l'un à côté de l'autre avec la main gauche du monsieur qui enlace sa compagne, et en fait il faut voir une seule identité composée de deux personnalités, masculine et féminine, et derrière vous avez un carquois montrant que en tant que ma partie masculine sera chasseur, et un enfant dans le dos, la maternité pour la femme. Mais c'est bien comme ça que la société sera perçue et va diviser les deux sexes, mais en fait, c'est vraiment aussi l'unité originelle des choses.
C'est vers 7 ans que ce couple primordial, enfin en tout cas cette unité qui est composée de deux êtres, ouais, va se séparer.
D'autant plus que le chiffre 7 n'est pas là par hasard non plus. Il est composé de deux chiffres symboliques pour eux, l'addition du 4 et du 3. 4 est un chiffre considéré comme féminin, et 3 est considéré comme un chiffre masculin. Et les deux forment une unité parfaite. Donc c'est un chiffre donc, qu'il faut revoir plutôt, qui est sexué, en quelque sorte, comme chez pas mal de ces sociétés-là. C'est là que ça devient assez complexe, hein, et on se rend compte que la liste de l'objet amène à d'autres strates. Il faut voir maintenant qu'il faut approfondir au niveau de toute la composition symbolique du groupe. Hein. Les hommes font partie aussi de cette complexité, je dirais, symbolique. Là, on va voir cette pièce-là. D'une pièce Dogon, encore une autre. Alors, elle est assez intéressante dans la forme et dans la position du personnage. A priori, c'est vrai qu'il faut faire très attention quand on parle de l'art Dogon, parce qu'il faut se méfier de ce qu'on voit. Vous avez là une coiffure assez originale.
Et oui, mais qui n'a rien à voir avec les tresses qu'on a pu voir jusqu'à présent.
Voilà, et surtout, elle a une barbe, un bouc. Ouais. Ensuite, vous avez une poitrine. Et quand vous regardez le personnage qu'elle porte au niveau des bras, c'est pas une position tout à fait naturelle. Hein, si c'est pas comme ça qu'une mère porte son enfant, quoi, oui. Je veux dire. Hein. Et il s'agit donc sans doute ici encore une fois, une référence au mythe. Vous devez sans doute avoir là un des nomos, hein, sa partie masculine et féminine qui est là, qui est représentée ici, qui nous ramène donc à la genèse du monde. Et ce sont pas du tout des maternités, même si on a une poitrine, hein, qui est là. Mais on a parlé tout à l'heure de cette origine avec ces deux sexes qu'on a, donc. Les deux sexes sont bien présents, mais aussi bien chez le personnage dit féminin que celui qui est porté, qui n'est pas du tout un enfant, mais qui est sans doute un dénomo.
D'accord. Ouais. Donc en fait, vous voulez dire que cette statue représente à la fois le masculin et le féminin.
Voilà.
Des couples qu'on a pu voir.
Voilà, et qu'elle porte. Il y a une partie qui est portée par l'autre. Hein. Tandis que si vous comparez les pièces qui sont à côté, qui sont d'autres cultures, Congo, on voit bien que là, on a des positions tout à fait naturelles. Vous voyez, la façon de porter l'enfant sur le côté, la main qui est portée sur la... Voilà. Et là, nous avons des pièces, presque des éléments anecdotiques, je dirais, hein, du quotidien. Mais quand vous avez des objets comme les pièces, ces fameuses femmes qui sont accroupies, portant un enfant, c'est toute une autre lecture qui est beaucoup plus proche de la... De la symbolique et qui vous donne aussi un regard sur le statut social du personnage.
La femme est plus qu'un être de chair, elle est aussi une épouse de l'invisible.
Par exemple, au niveau du quotidien, les statuettes, elles représentent un conjoint. C'est-à-dire que tout homme a une épouse qui lui est donc destinée, hein, dans un autre espace, invisible, et il s'en occupe. Et donc, à travers ces pièces-là, qui va tout simplement...
Ces femmes représentent en fait, il y a trois statues devant nous.
Toutes
ces
représentent une épouse.
Une épouse.
Une épouse, mais qui n'est pas visible, virtuelle, et qui doit nourrir avec des plantes, etc.
C'est destiné à des jeunes personnes qui vont bientôt se marier.
Non, il a, même s'il s'y bataille, tout le monde est marié en quelque sorte, et puis donc pour qu'elle agisse pour son confort personnel, au niveau du quotidien.
D'où le nom de conjoint de l'invisible.
Voilà, tout à fait.
Mais
la réciprocité est valable aussi pour les femmes.
Oui.
Donc tout le monde, en quelque sorte, personne n'est célibataire.
Dis-moi, quel serait mon présent pour l'amour que je porte pour toi ? Un chagrin de mort. Je t'aime. kani ne la kili kadabeye famwo fankadi.
La femme, mère potentielle, mère nourricière. Nous sommes face à une pipe Luba, ethnie de la République démocratique du Congo.
Alors, une pièce qui est toujours Luba, mais donc qui est très parlante dans la mesure où vous avez toujours cette position. Bon, c'est évidemment un personnage féminin, les mains qui viennent sur la poitrine, certes, mais on voit là qu'elle a les jambes repliées. Et le sexe qui est en rapport directement avec, je dirais, symboliquement, le globe. Hein. Donc elle va chercher là, puiser une énergie hein, qu'elle va aussi rendre à la Terre. Et puis vous pouvez remarquer aussi qu'il y a un nombril assez proéminent qui représente symboliquement le cordon ombilical qui est en fait le lignage. Hein. C'est elle qui nourrit, c'est elle qui va donc nourrir le groupe.
La femme nourricière.
Oui, oui. Mais c'est la femme fédératrice aussi. Par le cordon ombilical. Hein. Et c'est elle aussi qui est porteuse d'eau, hein, puisque naturellement. Et à partir de là, elle a accès à un monde, je dirais, équilibré. Et c'est à travers l'eau aussi que les devins agissaient sur le plan politique.
C'est la femme à l'origine du monde ?
Disons qu'elle est à l'origine d'un lignage, c'est-à-dire que c'est elle, le premier roi, je dirais, ou on pourrait dire prince, parce qu'il n'était pas encore roi, fut le fruit d'une rencontre entre un chasseur et une princesse qu'il a rencontrée au bord de l'eau. Tout ça est très symbolique, évidemment, par rapport au monde aquatique et toutes les divinités qui l'accompagnent.
Vimbo, vimbo mfana.
Wena bamba, vimba, vimba, la minzo, vimba, vimba. Wena bamba, vimba, vimba, la minzo, vimba, vimba. Wena bamba, vimba.
Nous nous trouvons face à une statue du peuple Bamana, au Mali, faite de bois, de fibres, de perles et de métal.
Ce qui est intéressant ici, c'est que la pièce est très sobre. Hein, dans la mesure où vous avez les mains qui sont décollées du corps, et tout de suite on est pris par la poitrine,
hein, qui est vraiment
très proéminente. Et les mains détachées du corps nous donnent une lecture, évidemment, de l'objet. Hein, on voit que des lignes, en fait. Hein, et tout ça, c'est la femme qui se présente à nous, qui s'offre à nous. Hein, elle dit bien, regarde-moi, je suis une mère potentielle. Mais elle ramène aussi à une société de caste, hein, où les potières épouseront des forgerons, les griots épouseront des griottes, hein, où les choses sont vraiment codifiées avant la naissance, en fait. Hein. Mais elle nous intéresse aussi parce que vous pouvez voir qu'il y a pas mal de scarifications sur le corps. Il y a toute une lecture aussi à faire. Il y a des graphismes là qui se lisent. Et ce sont des objets qui sont réservés à des initiés.
D'accord. Les scarifications, c'est aussi le signe d'une appartenance sociale, j'imagine ?
Oui, mais là plutôt, puisqu'ils diffèrent à chaque fois qu'on regarde nos pièces, mais c'est surtout dessus qu'on mettait des symboles assez forts. Par exemple, là, vous avez un croisement qui symbole le serpent mâle et femelle, qui sont tout simplement l'équilibre même de la société.
Hein.
La maternité.
Alors ici vous avez des pièces en ivoire et là on va, je dirais, avoir le quotidien de l'universel et on va peut-être rappeler que le taux de mortalité dans des sociétés africaines était très élevé. Il reste encore très élevé, mais au quotidien c'était assez élevé.
Ce sont donc des amulettes en quelque sorte ?
En quelque sorte, et en plus de ça, l'espérance de vie, il ne faut pas l'oublier non plus, est relativement court, hein, du moins par rapport à aujourd'hui. Hein. Arriver à l'âge de 50 ans était à l'époque une prouesse. C'est quelque chose qui vous permettait de rentrer comme chef de lignage pratiquement. Bon, aujourd'hui les choses heureusement ont évolué. Ceci dit, ben, nous retrouvons les mêmes, peurs, angoisses des femmes au quotidien, c'est de perdre un enfant. Et donc, vous allez utiliser une amulette en ivoire qui va être introduite à l'intérieur du vagin afin d'éviter la perte de l'enfant.
Et c'est au moment de la grossesse, alors.
Au moment de la grossesse, d'accord. Et là, c'est pour ça que vous avez parfois une forme qui fait penser à un fœtus. Donc là, on a je dirais, la femme au quotidien avec toutes ses angoisses.
Le masque ventre. Alors, on connaissait les masques de visage, il y a aussi les masques qui représentent un ventre d'une femme, une grossesse.
Voilà, les masques ventre, et qui sont des populations macondées. Et c'est assez unique en Afrique, hein, de voir un masque ventre qui va vous couvrir donc pratiquement de dessous le cou, quoi, là, jusqu'au bas ventre. Et les initiés avaient l'obligation de les porter. Initiés et garçons avaient l'obligation de le porter lors des rites d'initiation et donc devaient, en fin de compte, se vêtir ou se travestir par rapport au monde féminin. Et sans doute que le regard qu'ils avaient, qu'ils portaient peut-être sur leur mère ou leur sœur ou leur propre épouse, devait changer parce que ils ne se limitaient pas à les porter, puisqu'ils devaient aussi mimer les bruits de l'accouchement. Donc là, il y avait des hommes, donc en quelque sorte, qui accouchaient, hein, symboliquement. Dans le mythe d'origine aussi, le monde féminin est très présent. Donc, ce qui oblige aussi l'individu à endosser les deux identités à un moment de sa vie. Pas longtemps, certes, mais au moins, cette théâtralisation du monde, de la femme, à mon avis, avait sans doute aussi des conséquences psychiques. Voilà.
Femme nue, femme noire. Vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté. J'ai grandi à ton ombre, la douceur de tes mains bandées mes yeux. Et voilà qu'au cœur de l'été et de midi, je te découvre, terre promise du haut d'un col calciné. Ta beauté me foudroie en plein cœur comme l'éclair d'un aigle. Oh,
la femme de pouvoir.
Il y a peut-être un double regard à avoir. Le côté, je dirais, de la fonction qu'on connaît tous, qui est assez universelle, c'est-à-dire la mère et l'enfant. Il serait peut-être aussi intéressant de voir quelle est à l'origine du monde. Donc c'est le cas par exemple des Bambara où tout individu a une dualité au niveau de l'identité. On a les deux sexes en nous et après on s'en débarrasse. D'autres groupes tels que les Luba, tels que la pièce qui se trouve à ma droite là, eh bien, vous pouvez remarquer qu'elle a les mains qui vont sur la poitrine, mais c'est surtout un symbole d'équilibre social, c'est-à-dire la femme est la première conseillère du politique, c'est-à-dire du roi. Elles ont plusieurs fonctions, donc dont le rôle de pouvoir, si ce n'est aussi d'être à l'origine, par exemple, d'un lignage. Donc là, elles deviennent aussi indirectement, à partir de là, elles sont responsables politiquement. Donc l'ordre social aussi dépend d'elles.
Ta voix grave de contralto et les chants spirituels de l'aimer.
Statue de reine du peuple Bangwa au Cameroun.
Elle est en plein mouvement, elle a les jambes pliées et vous pouvez remarquer qu'elle a aussi un bras qui tient un instrument de musique et surtout elle a la bouche ouverte et les yeux, bon, il y a toute une expression derrière. Et là, on a photographié un mouvement, je dirais, un instant donné d'un geste, une gestuelle. C'est une reine d'ailleurs qui est là en train de danser un rite. Donc là, on a une autre position, c'est tout simplement la femme politique, puisque la reine mère était la première conseillère du roi, qui était souvent son fils. Donc là, on est loin du mythe, on est plutôt dans le politique et le social. À savoir que les femmes dans cette région ont, puisqu'elles sont toujours là, ont leur propre bien. Elles sont propriétaires.
Elles sont totalement indépendantes.
Oui, économiquement parlant, elles ont leur vie à elles. Et l'époux, ou le fils ou le père, bon, il a aussi ses biens à lui. Mais c'est vraiment l'indépendance économique, sociale. Mais c'est la première conseillère politique.
À l'ombre de ta chevelure, s'éclaire mon angoisse au soleil prochain de tes yeux. Femme nue, femme noire.
Gabin Boni s'arrête devant une statue baoulée, peuple de Côte d'Ivoire, l'occasion de nous donner quelques éléments sur l'histoire de cette ethnie.
L'identité même baoulée commence par une reine. C'est une reine qui a en fait sacrifié son fils, qui était le futur souverain, pour pouvoir sauver son peuple. Et le mot baoulée veut dire l'enfant est mort.
Pour pouvoir sauver son peuple ?
Oui, parce qu'ils étaient en pleine fuite, et donc il fallait traverser une rivière, c'est refusé. Les génies des eaux donc ont demandé son fils, qu'elle a sacrifié.
Un sacrifice.
Voilà, le prince en fait. Bon, et c'est ainsi que le mot baoulé est entaché, donc je dirais, de cette histoire, cette identité. Hein. Mais c'est elle en fin de compte qui a bien voulu le faire et qui va marquer définitivement l'histoire. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'aussi bien chez les Baoulés, chez les Loubas, ou chez les Dogons d'ailleurs, à travers certains rites, on a le sentiment que les femmes sont peut-être pas en avant, mais sont très présentes dans l'histoire, dans les rites, comme si un jour il fut un temps où peut-être elles dominaient et que les hommes ont peut-être un jour trouvé le moyen de les éliminer du pouvoir politique. Et c'est peut-être ce qu'on peut voir en fond.
La tête commémorative d'une reine-mère Edo, ancien royaume du Bénin.
Vous avez donc des têtes en bronze qui représentent donc des reines-mères, qui sont donc en fonte, hein, méthode de cire perdue, et la tête a un orifice qui permettait d'ancrer une défense d'éléphant. Et sur cette défense d'éléphant était gravée la vie de la personne figurée là. Donc il y a un objet de... Là on a la mémoire, ouais. Intéressant, qu'il fallait garder. C'est un art de cour, donc chaque roi, chaque reine, chaque épouse, à sa mort, avait sa tête qui était représentée, et donc on a une profondeur historique qu'on peut avoir ici avec une trace. Hein. Mais les femmes, là encore une fois, ont un pouvoir, ont une présence, et jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, un statut, leur quartier, une vie pratiquement autonome. Et elles sont aussi évidemment conseillères. Mais elles ne sont pas du tout reléguées à un rôle secondaire, juste de mère porteuse en quelque sorte. Non, elles sont dans toutes, je dirais, les strates de la société, du plus haut au plus bas.
Terminons l'exposition Femmes dans les arts d'Afrique avec la femme dans l'Égypte pharaonique.
La femme est très présente, hein, et surtout elle a un statut qui était à l'époque très intéressant, puisqu'elles étaient politiquement très fortes. Elles pouvaient être régentes, elles pouvaient être même au niveau des pharaons, puis tout ça. Bon. Mais elles avaient une certaine indépendance, elles étaient pratiquement propriétaires de leurs biens et tout ça. Bon. Et il y avait des divinités féminines, ce qui n'est pas le cas de toutes les cultures. Hein. Dans les mythologies, d'autres mythologies, c'est plutôt le côté macho qui préside, tandis que en Égypte, il y a les déesses féminines qui sont vraiment très présentes, hein, et qui nous donnent donc en fin de compte une autre vision de la une autre lecture du monde féminin. C'est surtout pour ça qu'on les a introduits dans cette exposition.
En marge de l'exposition « Femmes dans les arts d'Afrique », l'exposition de photos de la plasticienne camerounaise Angèle Etoundié-Samba, plasticienne.
C'est un regard de femme sur les femmes. Son objectif à elle se tourne vers le monde féminin, puisqu'on parle d'objectif non pas seulement en tant que but, mais en tant que, évidemment, outil de travail, et parfois avec une douleur, hein, comme vous pouvez le voir sur son ventre.
Alors, effectivement, mon regard s'est arrêté sur une photographie, je me demandais en fait ce que je voyais, parce que je n'arrivais pas vraiment à identifier quelle était la partie du corps qui était représentée.
Là, il y a le ventre qui a été... qui a subi, une
mutilation.
Une mutilation, et qui est à côté d'un arbre, une écorce, et qui lui donne vraiment beaucoup de force à cette photo, et on ne peut pas rester indifférent. Alors c'est aussi peut-être à travers là, ce regard qu'elle a porté sur cette femme-là, c'est aussi la douleur peut-être qu'il y a au niveau du quotidien. Et il y a aussi pas mal de photos, comme vous pouvez remarquer, avec des femmes portant des voiles. Et donc elle a joué aussi sur la transparence, hein, parce qu'on voit bien à travers ces tissus blancs qui sont là, ces regards croisés de ces jeunes filles au quotidien. Mais elle joue aussi, là, regardez, on voit des photos en noir et blanc, d'autres en couleur, mais ces regards sont aussi des regards pleins d'interrogations, parfois de nostalgie. Hein, et derrière c'est quand même ces photos, indirectement, je crois qu'il y a une prise de position sur la femme africaine, certaines femmes africaines, donc qui vivent aussi des moments difficiles, parce que il faut savoir que sur le plan économique, ce sont les hommes qui émigrent, les femmes restent, et elles doivent s'adapter à des conditions de vie qui sont peut-être pas les leurs au départ, et elles deviennent aussi responsables de la mémoire de leur lignage et celle aussi de leur mari, puisque c'est elles qui vont élever les enfants et donc doivent quand même montrer à ces enfants qu'elles ont un père qui est parti. Hein, et là, ce monsieur, elles doivent aussi défendre ce monsieur, défendre cette autre identité, hein, et peut-être aussi vis-à-vis de sa famille, de sa belle famille, elles ont une double responsabilité. Et par exemple, là, on a une femme qui est en train de pêcher.
Vous voyez, on voit bien un filet. Elle récupère un filet.
Voilà, ça c'est aussi la femme au quotidien avec le labeur et tout ça. Donc c'est des belles photos, mais une fois qu'on a dépassé, je dirais, le papier de la pellicule, on se rend compte que c'est pas forcément... Il y a beaucoup d'interrogations qu'on doit avoir derrière ces photos-là.
Femmes dans les arts d'Afrique est une exposition qui se déroule du 10 octobre 2008 au 12 juillet 2009 au musée d'Appert à Paris dans le 16e arrondissement. Merci à Gab Abony, attaché culturel au musée d'Appert, de nous avoir éclairé de ses connaissances. Merci à vous, auditeurs, de nous avoir suivis et à très vite pour de nouvelles émissions.
Patrimoine.